Commission Gravel-Fontaine, oui, avec Hélène Gravel et Isabelle Fontaine. Bonjour, mesdames.
Bonjour, Steve.
On revient ce matin sur... on va avoir du matériel en masse, disons, pendant la campagne électorale. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Promesse de la CAQ ce matin. Et ça a été notre question Facebook aussi. Le fameux 1 200 $ par enfant supplémentaire. Tu fais un deuxième enfant, on va te donner un 1 200 $. Familles qui sont maintenant considérées comme nombreuses, d'ailleurs, à deux ou trois enfants par la CAQ. Isabelle... D'abord, t'en penses quoi? Ça va-tu faire grossir les familles du Québec? Est-ce là une réponse appropriée? Et est-ce que ça va faire mettre un petit X à côté de la case de la CAQ?
Bien, je ne sais pas si ça va faire mettre un petit X, mais je pense que c'est une excellente idée. Il y a deux grands enjeux de société qui arrivent au Québec qui vont nous frapper de plein fouet. La pénurie de main-d'œuvre, qu'on ne réglera pas juste avec des politiques d'immigration, et le vieillissement de la population. En 2020, il y aura 20 % de la population qui sera âgée de plus de 65 ans. En 2025, ce sera 25 % Le Québec, la population du Québec vieillit plus rapidement que la moyenne des pays de l'OCDE. C'est deux grandes questions de société dont il faut s'occuper. Et même si la CAQ se tient loin du mot natalisme, moi, je pense qu'il faut s'en préoccuper. Puis si cette mesure-là permet d'augmenter le nombre d'enfants par famille, de faire la différence entre deux et trois enfants ou de faire en sorte que même les femmes commencent à avoir, les familles commencent à avoir des enfants plus jeunes, donc la possibilité d'en avoir plus est plus grande, c'est une bonne chose.
Bien, moi aussi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Puis je trouve ça un peu désolant de voir que dès l'annonce justement de cette promesse-là, les autres partis ont commencé à dire, bien, François Legault, il veut justement gonfler ce qu'on va appeler les Québécois de souche pour une question identitaire, alors que...
Puis en même temps, c'est même pas vrai. Qu'est-ce qui empêcherait une famille immigrante de profiter de ça? Je veux dire, vous êtes arrivé ici depuis 2-3 ans, vous voulez faire des enfants, vous allez en profiter comme
Non, mais là, tout ce que je disais, ben, tu as tout à fait raison, mais tout ce que je disais, c'était que les autres partis utilisaient ce principe-là pour dénigrer justement ce que la CAQ faisait. Puis c'est drôle, lorsque Robert Bourassa est arrivé avec la notion des bébés bonus, jamais la question identitaire a été soulevée, mais j'ai trouvé que François Legault avait du courage lorsqu'il a dit notamment... Il dit oui, ça peut être important en termes de proportion, ne serait-ce que pour notre importance au Québec à l'intérieur même du Canada.
Ben oui.
Et c'est un rapport de force qu'on ne peut pas mettre de côté. T'sais. Donc, pour moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Puis, il y a un petit côté pernicieux aussi dans ce qu'on entendait, c'est que M. Couillard a dit, est-ce que ça ne va pas aussi confiner les femmes au foyer? Et là-dessus, puis je vais laisser Isabelle, parce que Isabelle a dit quelque chose de fort intéressant, puis je pense que ça va brasser un peu à cause.
C'est sûr que cet argument-là va être sorti beaucoup. T'sais. Est-ce que faire plus d'enfants va faire en sorte que plus de femmes vont choisir de rester à la maison s'il y a un petit revenu supplémentaire? Puis moi, je suis féministe, donc le fait que les femmes assument encore une plus grande part de responsabilité dans la maison puis une plus grande charge mentale dans l'organisation de la famille, ça me préoccupe grandement. Mais il ne faut pas nécessairement qu'on n'encourage pas la natalité pour cette raison-là. Je pense qu'il faut plutôt agir directement sur la participation des pères dans la famille. T'sais. Puis il y a eu des études qui ont démontré que quand un père reste à la maison seul avec son enfant dans la première année, il y a plus de chances qu'après, ils prennent plus d'espace dans l'organisation, dans le partage des responsabilités de la famille.
C'est logique.
Ça, c'est simple. On prend le congé parental qui existe maintenant. Sans ajouter de semaines, on réserve une partie de ces semaines-là au père qui doit les prendre seul à la maison avec son enfant dans la première année. Oui, ça fait en sorte qu'on enlève quelques semaines à la mère. Pour beaucoup de femmes, il y a comme un symbole d'en rester une année avec son enfant. Mais si on donnait quelques semaines au père seul à la maison avec son enfant de moins d'un an, on aurait probablement un impact direct sur la participation des pères dans la famille. Après ça, il y a toutes les activités pour les pères à la maison la première année. Il y a beaucoup de cardio-poussettes, toutes sortes de
services. Mais c'est quoi le bout que j'ai manqué
service?
Quand on dit, excusez-moi, là, je sais que j'ai pas le bon sexe ce matin, là, mais...
Ben, pas du tout.
En
au
quoi le 1 200 $ va
t'avantager avec des semaines supplémentaires?
En quoi le 1 200 $ va garder les femmes à la maison? T'sais, je veux dire, même si tu as deux enfants, là, tu peux décider d'aller travailler. Si tu en as un troisième, tu peux aussi décider de continuer ta carrière. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a un choix là.
Tout à fait, mais lorsque tu fais plus d'enfants, il faut que tu parles aussi, tu penses aussi au partage plus équitable des tâches ménagères. Puis on sait pertinemment qu'il y a encore 80 % des tâches qui sont faites par les filles. Puis tu sais, on en parlait d'entrée de jeu.
Tes chiffres sont forts, Hélène. Là. J'achète pas, là. Excuse-moi,
non, pas toi,
j'achète
mais...
pas, là.
Ben, OK, mais on va parler en général.
Non, mais c'est pas grave, là, mais je te dis, j'achète pas le... J'ai l'impression qu'il y a des changements qui se sont effectués.
Il y en a. Avant, c'était 95.
Non, il y a des changements qui s'opèrent. Sérieusement. Mais il y a attends, il y a encore beaucoup, beaucoup de préjugés. Moi, personnellement, c'est mon chum qui a pris l'entièreté du premier congé parental. J'ai pris mon congé de maternité, il est resté un an à la maison. Et il y a toutes sortes de commentaires. Est-ce que ton chum s'ennuie un an à la maison? Est-ce qu'il va pas subir un
C'est vrai
un...
que ça existe, ça.
Oui, c'est ça, non, un backlash dans sa carrière. Mm-hmm. Est-ce qu'il vit bien avec l'idée de se faire vivre, je le dis en guillemets, par sa blonde? Tu sais, toutes sortes de préjugés oh, oui. qui existent.
Ça, ça existe
vraiment.
Encore, c'est vrai. Mais sur le partage des tâches, là, moi, je te dirais, puis c'est une impression, là. Tu sais, il n'existe pas de chiffre assez. Mais moi, j'ai l'impression que la plus jeune génération, là, c'est plus vrai, ça.
Ça s'améliore de génération en génération. Ça, c'est sûr.
Moi, je vois l'inversement. Mais... Je vois le phénomène inverse dans un paquet de couples autour de
mais
moi.
Mais je te dirais que c'est un peu de notre faute. Sincèrement, je trouve que. On a tendance à ne pas assez lâcher prise. Tu sais, il y a une chose qui est sûre, c'est que souvent, moi, j'entends des jeunes, là, bien sûr, dire « OK, regarde mon chum qui fait ça, mais ça n'a pas de bon sens, il ne fait pas bien. Fait que je vais le faire à sa place. Mm-hmm. » Mais le gars, qu'est-ce qu'il se dit? Il dit « Correct, elle veut le faire de sa manière. Fait que je vais laisser faire. Mm-hmm. » Alors que ce n'est pas ça, il faut savoir lâcher prise et accepter que les choses ne soient pas nécessairement faites à notre manière.
Et il y a aussi toutes les institutions publiques. Tu sais, moi, il a fallu que je m'y reprenne à trois reprises pour qu'on fasse changer le parent responsable dans le dossier de mes enfants de moi à mon mari. Parce que nécessairement, quand l'enfant était malade ou quand il se passait quelque chose, on m'appelait moi. La première fois, j'ai dit hey, mon chum est à la maison, appelez-le, il va s'en occuper. Moi, je suis au bureau. Et on me disait non, mais nous, on appelle systématiquement la mère. Et pour régler le problème, finalement, ils ont mis le numéro de téléphone du papa à côté de mon nom. c'est quand même incroyable.
C'est n'importe quoi. Mais tu as ce jugement-là qui est double, hein? Toi, évidemment, tu es une mère ingrate aussi. Là,
ah oui, absolument. Bien, oui, oui.
Mais ça, tu l'entends beaucoup aussi.
Mais là. Les deux côtés, hein, ouais, le premier congé paternel là, que tu prends, là, parce qu'aujourd'hui, les pères peuvent le prendre. Là. Je vous pose ouvertement la question. Vous nous écoutez, là, est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'avez fait? Ça s'est-tu bien passé? Et est-ce que le boss vous a regardé en disant, ben là, quatre semaines, t'exagères.
C'est ça. Il
n'avait pas assez de deux?
Il faut lire le livre de Marie-Lise Hamelin qui s'appelle « Maternité, la face cachée du sexisme ». Ça date d'à peu près un an. Là. C'est un excellent livre sur toute les institutions puis comment est-ce que ça a un impact sur nos choix.
J'ai envie de vous entendre sur une autre. Je sais que vous ne l'avez pas préparé, mais de toute façon, vous êtes toujours tellement habile dans vos connaissances diverses. Québec solidaire, ce matin, ça fait bien jaser, promet d'interdire la vente de véhicules à essence dès 2030. Déjà un petit peu plus vite que les libéraux.
Ben oui,
les
jeunes
libéraux
trouvaient
ça 2050. Mais l'aspect qui est un peu différent, eux autres, c'est qu'ils veulent également pénaliser l'achat à essence. Et ça, c'est dans l'éventualité où un gouvernement serait élu de Québec solidaire, ce qui n'arrivera pas. Mais quand même, supposons qu'eux soient portés au pouvoir, dès l'an prochain, tu achètes un véhicule à essence, tu paies une taxe X, 100$, 500$, je ne sais pas, là, sur un montant de véhicule à essence, en plus du petit crédit que tu donnes à l'électrique.
Ben, en Norvège, hein, c'est 2025, l'atteinte de cet objectif-là.
Oui, il y a des pays très audacieux là-dedans.
Oui, tout à fait. Alors, on est vraiment à la remorque de ces pays-là dans un premier temps, mais ils n'ont pas de conséquences si jamais tu ne l'achètes pas. Ce que Québec solidaire, ce que je ne comprends pas, c'est que tu ne peux pas pénaliser quelqu'un qui n'a pas les moyens d'agir dans ce sens-là. Fait que si oui, moi, je suis tout à fait favorable à l'interdiction des véhicules à essence dans un délai X, mais encore faut-il être en mesure d'aider ceux qui, en principe, n'auraient pas les moyens d'acheter électrique de le faire. Mm-hmm. Ça, c'est une question gouvernementale. Puis ils n'ont pas parlé du tout là, à ce moment-là.
Ben, ils conservent les subventions, mais tu sais, jusqu'à quel point tu peux les bonifier puis rendre ça beaucoup plus accessible.
De toute façon, 2030, au Québec, là, c'est beaucoup trop tôt, c'est infaisable. Tu sais, on ne l'a pas planifié suffisamment avant.
Non, puis en même temps, tu sais, il y a une question d'infrastructure disponible pour le chargement. Il y a une question d'accès aussi. Les véhicules électriques à l'heure actuelle qui ont une très grande autonomie, ceux qui sont disponibles ne sont pas très grands. Tu sais, vous parliez un peu plus tôt des familles qui avaient besoin d'une minivan. Tu sais, il n'y a pas de minivan électrique. Là. Puis quand tu as des enfants puis que tu fais que tu joues au hockey ou que tu fais du ski, tu mets pas ta poche de hockey dans une Bolt. Tu sais, fait que c'est pas si évident que ça. Là.
Les infrastructures, on n'est pas si mal.
Tu mets la poche de hockey, mais tu laisses l'enfant à la maison.
Sur les infrastructures, on n'est pas si mal parce que tu sais, ce que le conducteur moyen oublie, c'est que pour la recharge, tu le fais jamais. Mm. Tu recharges chez vous la nuit quand tu es à la maison. Fait que pour ça, moi, ça me fait moins peur.
Mais tu n'as pas une autonomie.
Ben,
tu
n'as pas 500 km en aller-retour.
Ben oui, puis vous avez besoin de 500, vous. Ouais, mais.
Attends, ouais, mais
à part toi, Isabelle, okay, là, qui c'est qui a besoin de faire ça tous les
mais
jours?
D'ici 2030, de toute façon, j'ose espérer que l'autonomie des voitures électriques va être améliorer.
Mais elle est déjà très bonne en passant.
Ben, 500 km actuellement, je pense non, non, mais qu'il y a le plus. Là.
On jase, là, mais juste pour vos besoins quotidiens, c'est parce que les gens ne sont pas habitués de calculer en kilomètres. Mm-hmm. Vous verriez que même les plus petites voitures avec de moins bonnes autonomies, là, pour une très, 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 très vaste majorité des gens, c'est amplement suffisant.
On pourrait faire des mesures temporaires ou en tout cas à moins long terme sur une petite voiture, la deuxième voiture d'une famille soit plus petite et électrique.
Demain, il faudrait discuter un peu d'Alena parce que quand même, hey, pas juste au Québec.
Ben là. Oui, le Mexique qui a signé.
Oui, le Mexique a signé, puis moi, je parie sur ceci, il n'y a rien de plus fort que l'ego de Trump. Lui, il veut que ça se signe vendredi. Moi, j'ai l'impression qu'il va mettre...
ah oui?
Ben, moi, je pense qu'il va mettre de l'eau dans son vin parce qu'il veut faire oublier tous les scandales qu'il a pu avoir dans les dernières semaines.
Ça va pas très
bien. Moi, je pense que les libéraux provinciaux espèrent que cette question-là créera une incertitude qui ramènera l'économie au cœur de la campagne électorale.
Oui, mais c'est pas les libéraux qui sont au niveau du positionnement des partis. C'est maintenant la CAQ qui est positionnée comme étant le parti économique.
Je vous sens feu là-dessus. Là. En 10 secondes, on est avantagé ou désavantagé que le Mexique a signé?
On est avantagé, selon moi, ne serait-ce que pour la question de l'automobile, puis le salaire à 16 $ et plus, parce que ça va faire en sorte que, notamment en Ontario, on va envoyer moins de nos véhicules au Mexique.
Mm-hmm. En fait, la balle est dans le camp de Justin Trudeau.
Ben, Mme Freeland, notamment.
Exactement.
Merci beaucoup à vous deux d'être passés ce matin.
J'ai plus confiance en elle qu'en lui.
À demain.